Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Exode 32, j'aimerais vous parler ce matin. Le titre de ma pensée pour vous ce matin est celui-ci, « Le souci du serviteur de Dieu ». Le souci du serviteur de Dieu. Je vous encourage, si vous le pouvez, prenez des notes. Ce ne sera pas une prédication, ça va vraiment être un enseignement. On va regarder quelques versets ensemble. Je ne suis pas venu ici avec des idées, avec des recettes, avec des méthodes. Parfois, j'imagine, je déduis ce matin que la majorité d'entre vous, vous êtes impliqués à l'Église, vous avez des responsabilités ou vous aspirez à vraiment servir le Seigneur. Et moi, je sais, parce que ça m'est arrivé un jour, il y a très longtemps, peut-être que je l'ai déjà dit ici, un jour, quelqu'un m'a offert un billet d'avion. Il m'a dit, tu vas où tu veux dans le monde, tu es un jeune pasteur, je veux t'encourager. Tu vas où tu veux, une semaine, tu vas visiter des ministères, des églises qui fonctionnent bien, qui grandissent, et tu vas recueillir des idées, et tu reviens, puis ça va t'aider, ça va te donner un coup de pouce. Je suis allé, j'ai recueilli des idées, ça ne marchait pas chez moi. Et puis, je ne veux pas trop rentrer dans ce témoignage-là ce matin, mais j'étais profondément déçu. Et j'ai appris à travers le temps que ce qui marche au Canada ne va pas nécessairement marcher à Genève. Et le plan de Dieu pour Genève n'est pas nécessairement le plan de Dieu pour Paris. Chaque endroit est différent, avec des contextes différents, avec des mentalités différentes, avec des terrains différents. Et le terrain, c'est le cœur de l'homme, c'est la pensée de l'homme. Ce matin, je ne veux pas vous amener des recettes, des principes ou des idées pour que tout à coup vous sortiez d'ici avec des meilleures idées pour les enfants de l'Église aussi, cela. Je veux vous parler de quelque chose de spirituel, un message qui est vraiment profond pour moi et spirituel, qui est très, très frais sur mon cœur. Alors, vous allez être gracieux envers moi. Ce matin, c'est la première fois que j'en parle. Mais qui traite vraiment du cœur de l'homme. Voyez-vous, il y a un homme qui s'appelait Richard Baxter, qui est un homme qui a marqué l'histoire du christianisme. Son livre a été réédité plus de 20 fois, je ne sais pas comment, de millions de copies. Charles Spurgeon, le grand prédicateur anglais, tous les dimanches soirs, s'assoyait dans son fauteuil et disait à sa femme, « Lis-moi un peu Richard Baxter pour couper mon âme, hein, pour percer mon cœur. » Et tout l'ensemble du livre de Richard Baxter, peut-être c'est un grand classique, peut-être que vous le connaissez, c'est le cœur du serviteur de Dieu, le cœur du serviteur de Dieu, le cœur du serviteur de Dieu, le cœur. Il martèle le cœur du serviteur de Dieu. Ce matin, je vais vous parler d'une attitude de cœur qui est très importante chez celui qui a cœur de servir Dieu. C'est le souci du serviteur de Dieu. La nature humaine cherche le confort, la détente, la sécurité, l'assurance, protéger ses acquis, même dans le ministère. La nature humaine est toujours avec nous. On l'a crucifiée, on veut se considérer mort à elle, et notre seule façon de combattre notre nature charnelle, l'apôtre Paul le dit, il le montre bien clairement, la seule façon qu'on peut combattre la chair, ce n'est pas en la prenant comme ça, mais c'est en se considérant mort à elle, de ne plus écouter ce qu'elle nous dit, de ne plus recevoir son influence sur notre vie. Mais la chair, elle influence. Elle vient toujours s'injecter dans la vie même du serviteur de Dieu. Et quand je parle de la chair, je ne parle pas nécessairement du péché. Je parle d'une mentalité qui est complètement à l'extérieur du royaume de Dieu. Je vais en parler beaucoup plus demain matin. Mais il y a la capacité chez l'homme de Dieu de commencer par l'esprit et tout à coup continuer par la chair. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates. Vous avez si bien commencé, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? La chair, elle a envie de revenir. La chair, elle nous rattrape après un détour. Et il y a, la chair a beaucoup de caractéristiques. C'est toute une nature. En fait, c'est une bête, la chair. C'est un monstre qui a été créé le jour où l'homme a chuté. Dieu n'a jamais créé la nature charnelle. La nature charnelle, c'est le résultat du contact de l'homme avec le péché. C'est là que la nature charnelle est venue. Et maintenant, on vit avec cette nature. Mais nous avons la nature de Christ en nous qui peut la combattre. Et l'apôtre Paul dit, « Faites par l'esprit mourir les œuvres de la chair. » Alors, pas la chair, ne faites pas mourir la chair. On ne peut pas la faire mourir, la chair. Mais on peut faire mourir ses œuvres, les résultats, le fruit de la chair. Mais, et ce matin, je veux juste parler d'une des caractéristiques de la chair qui a volé beaucoup de serviteurs de Dieu. La chair est une nature de détente, de confort, de sécurité. La chair ne veut pas prendre des risques. La chair cherche la sécurité, les acquis et l'assurance. Regardez tout le monde autour de nous, toute la société ne vit pas dans un contexte de risque. La société cherche des acquis. Ah, vous vivez dans un pays de banque, d'assurance vie. C'est quoi toute cette mentalité? C'est constamment une mentalité d'acquis, de sécurité, d'avoir des acquis, d'être sécurisé. Et voyez-vous, c'est complètement le contraire du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'insécurité. Ça vous choque un peu ce que je vous dis ce matin, mais c'est vrai. Regardez les hommes de Dieu dans la Bible. Abraham n'a jamais eu de maison. Il était béni de Dieu, vrai? Mais il a habité toute sa vie dans une tente. N'est-ce pas une insécurité? Josué a passé sa vie à conquérir. Jésus n'avait aucun endroit où poser sa tête. Le royaume de Dieu, et là, je ne suis pas en train de vous dire de vendre votre maison, vous devez bien comprendre ce que je parle. Je parle d'une attitude de cœur. Vous pouvez avoir trois maisons et vivre vraiment dans cette mentalité du royaume de Dieu, de ne pas chercher à poser ses bagages. Dans le royaume de Dieu, on ne pose pas les bagages. Dans le royaume de Dieu, on ne rentre pas l'épée dans son fourreau pour la déposer sur la tablette. Le royaume de Dieu, c'est un pèlerinage. C'est un voyage, c'est une conquête, c'est une quête. Le royaume de Dieu, c'est l'explorateur sur les océans. Vous comprenez ce que je veux dire? Et parfois, l'Église, le défi de l'Église, c'est de ne jamais arriver à un endroit où on croit qu'on a sécurisé nos trucs, les départements. Si vous vous occupez des enfants, ne cherchez pas à sécuriser votre département. Parce que moi, j'ai connu des guerres entre départements. Parce que ça, c'est mon territoire, c'est le territoire des enfants. Ça, c'est le territoire de la jeunesse. Ça, c'est le territoire des musiciens. Et on essaie de se sécuriser. Vous voyez, moi, j'ai même été comme ça. Il y a un moment donné, quand j'étais pasteur de jeunes, tout ce que j'achetais avec mon budget de jeunes, je mettais un sticker dessus. Vous dites un sticker, un collant? Un autocollant. Ceci appartient à Impact Jeunesse. Interdiction de l'utiliser sans demander l'autorisation au pasteur. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire ça. Il faut quand même organiser l'Église. Mais je cherchais mes acquis. Voyez-vous? Et dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Chercher mes acquis pour enfin un peu se poser. Et il y a cette je crois même aussi, un, c'est la nature humaine. Deux, c'est un courant de pensée qui n'est pas beaucoup adressé. Je n'ai pas vu de livre écrit là-dessus. Si vous en avez vu, dites-le moi, parce que j'aimerais bien en apprendre plus. Mais je l'ai vu chez certains serviteurs de Dieu. Je parle de pasteurs, je parle de gens qui font chanter, je parle de gens qui sont impliqués dans l'Église. Un courant de pensée qui est venu voler beaucoup de serviteurs de Dieu. D'arriver à un endroit où, bon, on va arrêter, on va relaxer un peu, on va se détendre un peu, on va poser des bagages, on va servir Dieu, mais tout doucement. Des serviteurs de Dieu qui ont dit, « Ah, moi, je me prends plus la tête. Moi, j'ai arrêté de m'inquiéter. Moi, l'Église, je suis pasteur dans une église, mais moi, l'Église, je l'ai donnée au Seigneur. Et puis, maintenant, je ne perds plus de sommeil là-dessus, je dors, et puis, il n'y en a plus de soucis. » Et j'ai vu cet homme revenir dans une pastorale, 3 ans plus tard. Il s'est levé devant tous les pasteurs, brisé, en larmes, déchiré son cœur. Il dit, c'est fini pour moi, j'abandonne tout. Et puis, il n'est plus pasteur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre, frère. Vous ne pouvez pas dire, je me bats plus, moi. Vous dites ça, allez dire ça en Irak, allez dire ça. Prenez un marine américain qui est en plein cœur de Bagdad, et qui tout à coup, lui, un jour, il enlève son casque, il enlève ses armes et dit, « Moi, je ne me bats plus. Moi, c'est fini la guerre pour moi. Moi, maintenant, je vis dans la paix de Dieu. » Il ne fera pas longtemps. Vous comprenez? Il y a une tension spirituelle. Mais ce matin, on va parler de qu'est-ce que le combat? Qu'est-ce que le souci? En un mot, il y a un souci pour le serviteur de Dieu. Si vous voulez servir Dieu, vous aurez des soucis. Mais maintenant, il y a des soucis qui reviennent à Dieu. Et il y a des soucis qui reviennent à nous. J'étais à 2 semaines de déménager en France. Plus aucune ressource financière. On avait vendu la maison, tout quitté. Et je partais prêcher dans une église au Québec. Et 3 heures avant la prédication, ma femme est sortie du cabinet de médecin en me disant « J'ai un cancer ». Et je te vois là, ma voiture, j'étais en larmes constamment. Tout le long, en allant prêcher avec ma femme et mes enfants derrière qui ne savent pas, on ne veut pas leur dire tout de suite. On va attendre le moment. Et constamment, j'avais ces soucis. Voyez-vous, et la première chose que j'ai appris, c'est que ça, ce n'est pas mes soucis. Et Dieu a mis sa main, mon épouse a pu être opérée d'urgence rapidement. Tout a été retiré, il n'y a pas eu de récidive et aujourd'hui, elle va très, très bien. Mais le Seigneur a commencé à nous apprendre qu'il y a des soucis qui sont à nous et il y a des soucis qui sont à lui. Ça, on l'a donné au Seigneur. Avant de venir ici, ma femme était à côté de moi dans la voiture. J'étais en route vers la gare pour prendre le train, oui. Et ma femme, elle ouvre le courrier comme ça. Et puis, elle regarde le courrier. Tout à coup, elle ouvre une lettre. Non. Grosse mauvaise nouvelle, elle se met à pleurer. Je ne peux pas vous raconter, c'est ma vie privée. Et j'ai dit au Seigneur, ça, je te le donne. Ça, je te le donne. Je vous parle avec mon cœur ce matin. Ma femme, elle ne va pas bien. Sa santé ne va pas bien. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Mais ça, je l'ai donné au Seigneur. Ça, c'est le combat du Seigneur. Il y a un souci que Dieu veut qu'on porte. Mais je veux premièrement vous dire quels sont les soucis que vous ne devez pas porter. Et quand je parle de ne pas les porter, je ne parle pas d'être insouciant, mais de constamment les remettre sur Dieu. Nos soucis financiers, nos personnels, nos soucis de santé personnelle, nos soucis face à nos enfants, face à notre vie personnelle. Tout ce qui concerne le « je me moi » doit être donné à Dieu. L'apôtre Paul dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » La vie chrétienne, c'est ce passage de mourir à tout ce qui est « je me moi ». C'est ça, c'est pas prêché souvent, ça. La vraie vie chrétienne, l'apôtre Paul dit, « Si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. » Maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est de nous considérer morts à tout ce qui est « je, me, moi », vos soucis financiers, personnels, quels qu'ils soient. Vous vous considérez morts à tout ça parce que vous les donnez à Dieu. L'apôtre Paul dit, « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. » Ce n'est pas que je suis mort et que c'est fini. C'est que maintenant, je vis pour le royaume de Dieu. Je vis pour Dieu. Je vis pour la maison de Dieu. Je vis pour la gloire de Dieu. Je vis pour les intérêts de Dieu. Et vous allez voir, en terminant ce matin, je réserve le meilleur pour la fin. On va terminer ce matin en regardant, à la fin, la bénédiction de Dieu qui vient sur celui qui vit pour les intérêts de Dieu. Mais je vais aller encore plus loin. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs soucis. Mais il y a, je crois, cette pensée qui est très, très importante. Nous sommes appelés, oui, à une vie de paix, à une vie de joie, à une vie de repos. Il a été dit de Christ qu'il a reçu une onction de joie. Moi, je crois qu'il y a plein de films sur Jésus qui sont à refaire. On a un Jésus qui est triste, toujours accablé, toujours sérieux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Parce que la Bible dit que Jésus avait une onction de joie. Ça veut dire que Jésus était heureux. Jésus était profondément heureux. Il a eu des moments de peine, il a eu des moments de tristesse. Et il a eu des moments où il a été frappé, voyez-vous. Mais nos vies auront des moments de peine, nos vies auront des moments d'épreuve. Mais sur le lot, il devrait y avoir beaucoup plus de joie que de tristesse. Parce que c'est biblique. La Bible dit que Jésus était oint d'une onction de joie. Jésus a dit, « Je vous donne ma paix. » Frères et sœurs, il y a une vie de paix, même dans la tempête. Si Jésus a dormi dans la tempête, je peux dormir dans mes tempêtes. Maintenant, Jésus a quand même dit de porter son fardeau. porter mon joug. Vous savez, c'est quoi un joug? Hein? C'est une pièce qu'on mettait sur un animal pour qu'il puisse tirer la charrue. En fait, c'était, on prenait un animal et on en faisait un esclave. Il va travailler. Et quand Jésus a dit « porter mon joug », les gens ont dit « Oh, fini la liberté. Je suis attaché. » L'apôtre Paul a dit « Je suis l'esclave de Christ. » Il y a un joug à porter. Et là, les gens ont dit à Jésus, mais où on pensait quand Jésus a dit « un joug », mais qu'est-ce que c'est lourd, un joug? Et Jésus, là, il a mis en contexte. Un joug qui est doux et léger. Il y a un fardeau à porter dans le service de Dieu. On ne peut pas l'enlever, c'est une réalité. Il y a un fardeau à porter. Mais il est doux, il est léger, et je vous dis vraiment ceci ce matin, parce que je veux le porter dans ma vie, je l'ai expérimenté. C'est merveilleux. Porter le fardeau de Dieu avec nous, c'est quelque chose de merveilleux. Ça l'enrichit notre vie. L'apôtre Paul a dit ceci, si vous ne croyez pas à ça, l'apôtre Paul en a parlé. Il a dit, « Qui tombe que cela ne me brûle? » Vous êtes déjà brûlé avec du feu, avec une flamme? Ça fait mal. L'apôtre Paul dit, « Si j'ai un frère ou une sœur à quelque part dans une église qui tombe, il dit, ça me brûle, ça me fait mal. Je suis affecté parce que mes frères et sœurs y vivent. » Il va dire ceci, « J'ai le souci de toutes les églises. » Wow! L'apôtre Paul, il va même dire à un moment donné, « J'ai une tristesse constante. Hein, je voudrais que mes frères et sœurs, les Juifs, puissent venir à la connaissance de Christ. Et je porte cette tristesse dans mon cœur. » Mais ce n'est pas une tristesse humaine, frères et sœurs. C'est inexplicable, il faut la vivre. Ecclésiaste dit, « Mieux vaut la tristesse que la joie, mieux vaut la tristesse que le rire. » Car même si le visage est triste, le cœur peut être heureux. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça, Ecclésiaste? Hein? Pourquoi est-ce que c'est dans ce livre? Ce n'est pas une tristesse humaine. C'est un fardeau qui est doux et léger, qui est agréable à porter, qui enrichit notre vie et qui n'est pas de nous, qui n'est pas provoqué par nous. On ne peut pas le stimuler, on ne peut pas le provoquer. C'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu. C'est l'amour pour l'Église, l'amour pour les âmes autour de nous, qui pèse sur notre cœur, l'amour pour nos proches et l'amour pour les intérêts de Dieu. On va le regarder un petit peu ce matin, on va commencer, on va prendre une pause et après on va continuer. Et je crois, moi, que par cette pensée de fardeau d'amour pour ce qui est autour de nous, il y a beaucoup de choses qui se régleraient dans les églises. Il y a beaucoup de conflits qui arrêteraient parce que moi, je crois que la base de tous les conflits dans l'église, entre les serviteurs de Dieu, entre un département ou un autre, c'est toujours les intérêts personnels. C'est le « je, mais moi, la nature humaine ». On s'accroche, on s'attache, c'est comme ça. On se ferme l'esprit. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est la chair qui réagit. Et le désir de Dieu, c'est de déposer en nous des motifs purs. Si nos motifs pour le royaume de Dieu sont l'amour, eh bien, ça va amener l'unité. Si nos motifs profond de chaque personne qui a des responsabilités dans l'Église. Si ses vrais motifs, c'est ce fardeau, ce désir du bien-être de la maison de Dieu. Vous savez ce qui va arriver? Ça va amener l'amour, l'unité. L'Église va progresser. Voyez-vous, moi, je ne veux pas élever un homme ce matin. J'étais béni de rencontrer le frère Alassono. Hein? Parce que moi, je voyage dans toutes les églises, tous les week-ends. Et c'est merveilleux de rencontrer... Je le regardais hier et puis... Il était soucieux des détails et tout. Et puis, il me dit, il m'a encouragé. « Frère, je te bénis, que Dieu soit avec toi. » C'est rare, moi, qu'un gars de Sono, il vient me planter un micro et qu'il me dit, « Hallelujah, que le Seigneur soit avec toi. » J'ai senti qu'on faisait équipe, voyez-vous? Mais personne ne le voit ce matin. Il est en haut dans sa petite cabine, personne ne le voit, puis peut-être que vous ne le connaissez même pas. Mais Dieu seul connaît son cœur. Moi, j'ai eu l'impression que ses intérêts... C'était le bien commun de tous. Puis il m'a dit, « Pasteur, parfois vous parlez fort et tout, alors je dois baisser un petit peu le volume et tout ça. » Puis il m'a dit, « Il y a des gens, ça va leur faire mal aux oreilles. » Et puis, je dis, « Mais c'est bien qu'ils s'inquiètent de ça. » Voyez-vous, il ne pense pas à lui, il pense à la communauté des chrétiens. Et ça, pour moi, c'est le désir que Dieu veut mettre en nous. Que peu importe votre responsabilité dans l'Église, qu'il n'y ait jamais un désir, « Oui, mais moi, mais qu'est-ce qui va m'arriver si l'Église fait ça? » Mais qu'est-ce qui va arriver si on s'en va par là? Nos inquiétudes ne devraient jamais être nous. Nos inquiétudes devraient toujours être le bien commun de tous. Je vais vous montrer un homme ce matin qui est vraiment exemplaire à ce niveau, et c'est Moïse. Hein, Moïse, c'est vraiment un serviteur de Dieu à observer, à regarder. C'est un modèle, je crois vraiment que malgré ses erreurs, malgré sa nature humaine, c'est un homme qui a vraiment aimé Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention sur une inquiétude en particulier que nous devrions avoir. C'est quelque chose que vous savez, c'est quelque chose qui est classique, mais c'est une inquiétude qui, je crois, dans notre quotidien de serviteur de Dieu, parfois n'est pas là. Mais elle était presque omniprésente et constamment dans la vie de Moïse. Moïse avait une grande inquiétude dans sa vie. Moïse avait un grand souci dans sa vie qui générait tout son travail. Moïse se souciait d'une seule chose, et on le voit à travers sa vie. Moïse se souciait de la présence de la gloire de Dieu, la nuée. Et je n'ai pas le temps ce matin de vous faire une étude sur l'importance de la nuée de Dieu. Mais si vous voulez une bonne étude exhaustive sur la nuée de Dieu, lisez Ésaïe 60. Ésaïe 60, c'est très simple. C'est un dictionnaire, c'est une définition de qu'est-ce que la gloire de Dieu va produire. Parce que Ésaïe 61 nous dit la gloire de Dieu. Et après, il ne parle plus de la gloire de Dieu dans Ésaïe 60. Mais il nous dit, il nous fait la nomenclature de tout le résultat de la présence de la gloire de Dieu. C'est ça, Ésaïe 60. Lève-toi, car ta lumière brille, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme, il y a une femme, on ne sait pas qui. Et on va voir ensemble ce matin, c'est quoi le cœur qui attire la gloire de Dieu? Mais qu'il y a eu un cœur qui a attiré la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est venue sur cette personne. La nuée de Dieu est venue sur cette personne. Alors Dieu dit, maintenant ça va bouger. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ça avance, progression, Dieu combat l'ennemi, victoire, restauration. Tout ce qui est dans Ésaïe 60, c'est de la victoire. Mais tout l'enjeu d'Ésaïe 60, c'est Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, car la gloire de Dieu est sur toi. Si la gloire de Dieu n'est pas là, on ne devrait pas se lever. On ne devrait pas bouger. On devrait tout faire pour qu'elle vienne. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci, que l'histoire d'Israël et la présence de la gloire de Dieu, ça a été vécu pour notre enseignement à nous. Ça veut dire que, si vous comprenez bien, ça veut dire que Paul plongeait ses regards dans Exode, Nombre, des textes qu'on va voir ensemble ce matin. L'apôtre Paul plongeait ses regards dans ces textes et il voyait dans ce que Israël avait vécu physiquement, hein, parce que c'était une présence physique, il voyait une réalité spirituelle pour l'Église. Il a dit, ça a été vécu pour nous. Maintenant, Dieu ne va plus, vous savez, nous ne sommes plus dans des jours où Dieu va amener une nuit physique, un nuage comme ça. Mais c'était, la Bible dit, c'est même extraordinaire, parce que la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que la gloire physique de Dieu est moins importante pour Dieu que sa gloire spirituelle invisible. Parce que la gloire physique était une ombre. L'ombre est toujours moins importante que la réalité. Mon ombre est beaucoup moins importante que moi-même. La nuée physique de Dieu, c'était l'ombre d'une nuée spirituelle qui allait venir au jour du Nouveau Testament. Maintenant, nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous vivons dans la plénitude de ce que Dieu désire pour nous. Moïse avait un seul souci dans sa vie, la présence et la manifestation de la gloire de Dieu. Et on va voir ensemble ce matin trois soucis qui, je crois, englobent vraiment le cœur du serviteur de Dieu. Exode, verset 32. Encore un petit 5 minutes, on fait une pause, OK? Après, on revient. Exode 32. Vous connaissez le contexte, hein, je ne vais pas l'expliquer ce matin, on va essayer de gagner du temps. Le peuple est littéralement en rétrograde, le veau d'or, il mange, il boit, c'est la débauche. La Bible dit que Dieu les a arrêtés juste à temps, hein, parce qu'ils se levaient pour se divertir. On peut bien imaginer ce qu'ils allaient faire. Hein. Et Moïse va prier que Dieu ne détruise pas le peuple. Maintenant, regardez bien ceci. Moïse aimait les âmes, hein, parce qu'à un moment donné, Moïse va dire « Prends ma vie hein, ». Il va dire ceci, « Ne tue pas le peuple, prends ma vie ». Parce que pendant 40 jours, Dieu avait expliqué à Moïse le concept du sacrifice. Le sang doit couler pour que justice soit rendue, pour que quelqu'un soit sauvé. Et Moïse a compris ce concept partiellement. Et il va retourner vers Dieu et il va dire, « Mais prends ma vie pour que la loi soit épargnée. » Alors, vous devez vraiment comprendre que le Moïse qui est ici, c'est un homme qui aime les âmes. C'est un homme qui ne pense pas à lui-même, c'est un homme qui aime les autres. Mais, dans la prière qu'il va faire, il n'y a aucune mention des gens. La première intercession que Moïse va donner à Dieu au verset 12 dit ceci, Exode 32:12. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, pour les supprimer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. J'aimerais attirer votre attention sur une vérité dans ce moment d'intercession. Vous savez, Moïse se souciait profondément d'une chose, le témoignage de Dieu envers les Égyptiens, envers les non-chrétiens. Pour Moïse, il fallait que Dieu fasse grâce au peuple, il fallait que la gloire de Dieu vienne sur le peuple, premièrement, pour le témoignage. Le monde a besoin de savoir que tu es avec nous, que nous sommes différents. Moïse dira à un moment donné dans son intercession, « Comment sauront-ils que nous sommes différents des autres peuples? » C'est ta présence avec nous qui va nous différencier, qui va nous démarquer des autres. Frères et sœurs, nous devrions avoir un souci que l'Église rende un témoignage à la société. Nous sommes dans une ère que l'apôtre Paul n'a même pas vécue, que les premiers chrétiens, eux, ont vécu leur défi à eux. Mais aujourd'hui, il y a des églises pour tous les goûts, c'est comme des boutiques les églises parfois, c'est incroyable, il y a toutes sortes de courants de pensée. Il y a un grave et un urgent besoin qu'une Église équilibrée, sainte, à la gloire de Dieu s'élève dans cette société. Vous êtes littéralement les ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre. Moïse avait ce souci. Voyez-vous, moi ce qui touche mon cœur, c'est que Moïse se souciait de la réputation de Dieu. Quand il s'est dit, « Mais Seigneur, si tu les détruis, Seigneur, si ta gloire s'en va, si tu ne viens pas avec nous, qu'est-ce que le monde va dire? » Voyez-vous, moi, il y a des combats que j'ai livrés dans ma vie, il y a des défaites que j'ai refusées, premièrement, par témoignage envers les non-chrétiens, par témoignage envers le monde dehors. Quand on a quitté le Canada par la foi financière à tous les niveaux, il y a quelqu'un dans notre famille qui n'est pas chrétien, qui s'est dit, c'est un truc de fou. C'est quoi cette histoire de vivre par la foi et tout? Bon, on leur a expliqué de façon très... On voulait même pas leur dire qu'on partait comme ça par la foi parce qu'ils sont pas chrétiens. On s'est dit, ils comprendront pas. C'est des athées, ils croient même pas à l'existence de Dieu. Et puis, tout ce qu'on a fait, on les a rassurés. On n'a jamais dit qu'on allait vivre par la foi. Mais, on est en 2008, il y a des prédications de Christian Robichaud sur Internet, il y a un site web, ils sont allés voir. Et puis, ils ont lu mon bouquin. Puis ils ont commencé à vraiment se dire, mais il est complètement... Qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Ils vont vraiment s'écraser en France. C'est quoi cette histoire de vivre par la foi? Et là, pendant une année en France, on les appelait et tout, c'est la famille, on les rassurait, on leur envoyait des photos. C'est quand même beau l'Europe, hein, et tout ça. Et puis, durant toute l'année, ils se sont dit, mais ça marche? Et là, on les a vus l'été dernier, et je les avais devant moi, et ils m'ont dit, on commence à croire qu'il y a un Dieu dans le ciel, et qui est vivant. Votre vie va bien. Vous y arrivez. Et voyez-vous, le souci de Moïse, c'était le témoignage de Dieu. Moi, il y a des combats que j'ai livrés dans ma vie et dans mon ministère parce que je me suis dit, non. Là, l'Église, elle représente Dieu auprès de la société. Ma vie, mon couple, ma famille, mon témoignage ne peut pas tomber dans l'échec, ne peut pas sombrer dans une défaite parce que le monde autour de nous va dire, regardez. Regardez les petits chrétiens. Regardez, ils sont faibles. Ils sont petits. Non. Nous représentons le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans la victoire, à briller dans la société. Amen. Moïse avait ce souci profond de la gloire de Dieu. Voyez-vous, dans Nombre 14, mais juste avant, Pensez à Moïse quand Dieu a dit « Je n'irai pas avec vous ». Vous connaissez, hein? Nombre 34, tout de suite après. Dieu dit « Je ne détruis pas Israël, mais toutefois je n'irai pas avec vous ». Je vous assure le succès, je vous assure la victoire, je vous donne Canaan, vous allez réussir dans la vie. En termes modernes, Dieu dit, je te donne tout ce que tu veux, c'est fini les soucis financiers, c'est fini les inquiétudes, si, cela, je vais te donner la réussite dans ta vie personnelle, je vais même donner la réussite à ton église, mais moi, je ne serai pas là. Moi, j'ai une tristesse dans mon cœur encore aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté ce contrat avec Dieu. Encore aujourd'hui, Dieu offre cela. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas vraiment la présence de Dieu. Ils veulent la réussite, mais ils ne veulent pas la présence de Dieu. Ça existe. Et moi, je crois que Dieu, le contrat qu'il a offert, il a offert à des églises aujourd'hui et à des chrétiens. Et ils réussissent leur vie pour un temps. Ils réussissent leur église, mais sans la présence de Dieu. Et Moïse avait compris quelque chose. Regardez ce que Moïse a répondu à Dieu. Comment sauront-ils les Égyptiens, que nous sommes ton peuple, si tu ne viens pas. Vous savez, pour Moïse, le succès, la réussite, la victoire, l'avancement n'étaient pas nécessairement un signe que Dieu était avec eux. Il fallait une manifestation de la gloire de Dieu. Il fallait une présence. Frères et sœurs, Moïse avait compris quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Ce n'est pas juste que je réussisse ma vie qui va montrer qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il faut une manifestation de la gloire de Dieu. Moïse avait un désir de la présence, de la gloire de Dieu avec lui. Dieu lui a offert. Il lui a offert toute la réussite, mais moi, je n'irai pas. Et Moïse a dit, non, moi, je n'en veux pas. Si c'est comme ça, je ne bouge pas. Pourquoi? Parce que Moïse savait, ce qui va nous différencier des non-chrétiens, ce n'est pas nécessairement juste la réussite dans notre vie. Ce qui va nous différencier, et Dieu veut nous donner la victoire, comprenez ceci, parce que Dieu leur a quand même donné la victoire. Mais ce qui va nous différencier des gens non-chrétiens, c'est la présence de Dieu sur nos vies. Dieu veut et Dieu peut poser une gloire sur vous, une présence sur vous. Mais s'il le fait, vous serez les derniers à le savoir. Parce que si vous êtes les premiers à savoir, vous allez devenir orgueilleux. Regardez Moïse. La Bible dit que quand Moïse est débarqué et descendu de la montagne, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit qu'il a dû se voiler. Parce que sa peau brillait. Mais regardez, il y a un tout petit verset bien important. Moïse ne le savait pas, lui, que son visage brillait. Vous n'allez pas vous regarder dans la glace et dire, mais qu'est-ce que je suis glorieux? Comprenez? Dieu marche avec moi. Ce n'est pas comme ça que ça va aller. Moïse ne le savait pas, lui. C'est les autres qui le voyaient. Dieu va vous le cacher à vous. Il ne vous le montrera pas que sa gloire est sur vous. Pour que vous restiez humbles. Mais les gens autour de vous vont trouver que vous êtes différent. Ils vont trouver que vous avez quelque chose. Ils vont dire, mais elle a quelque chose, cette dame. Moi, nous, Seigneur, ça nous est arrivé dans notre vie personnelle. J'ai un ami pasteur qui est un homme de prière, qui est un homme de la présence de Dieu. Et un jour, il est allé dans un petit kiosque pour acheter un journal, sur la rue, comme ça. Et la dame qui lui vend le journal, elle lui dit, mais vous êtes qui, vous? Il dit quoi? Elle dit, est-ce que vous êtes un diplomate d'une nation quelconque, un représentant? Il dit, mais pourquoi? Il est avec sa femme. Elle dit, je vois, il y a comme une majesté sur votre couple. Elle n'a rien vu de physique, mais elle a senti la présence de Dieu. Comprenez? Quand les tours sont tombées le 11 septembre à New York, c'était la panique, même à Montréal, au Québec et tout ça. Le 12 septembre, le 13-12 septembre, tout était fermé. Le 13 septembre, on est allé faire des courses. Et il y a une vieille dame qui s'approche de moi comme ça, au magasin. On était allé acheter des fruits et légumes et tout ça. J'étais avec mes enfants. Et il y a une vieille dame qui s'approche de moi et me dit, « Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur? » J'ai dit, « Quoi? » J'ai dit, « Vous ne voyez pas autour de vous? Tout le monde est inquiété. Tout le monde est paniqué. Le visage des gens est tellement stressé. » Et vous, vous êtes là, vous êtes assis à une petite table, vous mangez une pizza avec vos enfants, vous êtes tout calme et vous êtes tout content, vous riez. On est le 13 septembre, c'est la fin du monde et tout. Puis j'ai dit, asseyez-vous, ma chère madame, je vais vous raconter quelque chose. Pour lui parler de l'amour de Dieu. Et on l'a invité à l'église. Voyez-vous, moi je crois qu'il nous faut une gloire de Dieu sur notre vie. Parce que ce monde a besoin d'un témoignage. Ce monde a besoin d'un témoignage. Je termine avec ce verset, on fait une pause et on revient. Nombre 14:14 nous dit ceci. Le peuple est rebelle. Le peuple a décidé de ne pas prendre la terre promise. Ils ont décidé de douter, d'être incrédules. L'incrédulité est un péché. De ne pas croire que l'Église peut avancer, c'est un péché. Le peuple est incrédule, ne veut pas risquer, ne veut pas bouger. Alors Dieu dit, je vais les détruire. Moïse va s'interposer devant Dieu. Il va dire, une autre fois, il va intercéder. Regardez le cœur de son intercession, verset 14. Ils ont dit aux habitants, parlant des Égyptiens, on va le prendre au verset 13. Moïse dit au Seigneur, « Les Égyptiens ont appris que c'est ta puissance qui a fait monter ce peuple de chez eux. Ils l'ont dit aux habitants de ce pays, « Ceux-ci ont appris que toi, le Seigneur, tu es au milieu de ce peuple, que c'est toi, le Seigneur, qui te montre à eux, les yeux dans les yeux, ta nuée se tient au-dessus d'eux, toi-même, tu les précèdes le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. » Voyez-vous, la gloire de Dieu est le cœur de la discussion ici. Et tu ferais mourir ce peuple comme un seul homme. Alors les peuples qui ont appris ta renommée diraient, le Seigneur n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis. Voilà pourquoi il les a massacrés dans le désert. À d'autres moments donnés, Moïse va vraiment mettre l'emphase sur l'amour pour les âmes. Il faut gagner les âmes. C'est pour ça qu'elles ne doivent pas être détruites. Mais ici, ce que je veux vous montrer juste avant la pause, c'est cette pensée, ce cœur de Moïse qui s'inquiétait de la réputation de Dieu. Seigneur, les Égyptiens ont dit aux Cananéens qu'il y a une gloire qui est avec nous, qu'il y a une présence qui est avec nous. Les Égyptiens ont raconté aux Cananéens tout ce qui s'est passé en Égypte et comment tu nous as délivrés. Si maintenant on échoue, ils diront de toi, tu n'es pas capable. Voyez-vous, si l'Église est sclérosée, si l'Église est paralysée, c'est un enjeu là, qui se passe dans les lieux célestes, sur le nom de Dieu. Si l'Église recule, si l'Église perd du terrain, c'est une tristesse dans la société, parce que l'Église représente Dieu sur terre. L'Église, Christ est la tête, mais l'Église est le corps. Et Moïse avait ce souci que le peuple de Dieu puisse progresser et avancer et être béni de Dieu. Mais le cœur de son souci, il n'y avait aucun intérêt personnel. Oui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont là pour des intérêts personnels. Mais ici, on a un bon modèle. Moïse, ses intérêts, c'était la gloire de Dieu. Seigneur, si on n'avance pas, que diront-ils de toi, ton nom? Ils diront, il n'est pas capable. Vous savez, à l'époque, tout le monde avait des dieux. Tout le monde croyait, et on croyait que les dieux étaient territoriaux. Même pendant un long moment de sa vie, David a cru que Dieu était un Dieu territorial. Il croyait que Dieu était le Dieu d'Israël. Et on le voit, parfois, ils se battent entre eux, les armées. Ils disent, on va les battre à tel endroit parce que leur Dieu est le Dieu des plaines. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de la forêt, alors on va les avoir dans la forêt. Ils croyaient comme ça, ces gens-là. Ils priaient, leur Dieu faisait des sacrifices, ils partaient à la guerre. Et à un moment donné dans sa vie, David a eu une révélation. Je vais au fond de la mer, t'es là. Je vais à l'autre bout de la terre. En fait, tu es le Dieu partout. Et Moïse se souciait. Tout le monde croyait dans des dieux. Les Égyptiens vivaient de la magie. Ils vivaient du surnaturel. Mais il fallait que le Dieu des Hébreux soit plus fort que tous les autres dieux pour montrer que leur Dieu est le Dieu de toute la terre. Frères et sœurs, nos vies doivent rendre témoignage à la gloire de Dieu. Il nous faut une seule chose sur notre vie. Ne sortez pas d'ici en courant à droite et à gauche, en cherchant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, le pasteur, il nous a dit qu'il faut s'inquiéter pour que l'Église avance. Non. Il y a une seule inquiétude qui est très importante. Il faut la gloire de Dieu sur l'Église. Il faut la présence de Dieu sur l'Église. Et si la présence de Dieu, la gloire de Dieu vient sur nos vies, notre couple, notre personne, notre famille, nos enfants et notre Église, eh bien, ça va avancer. Les choses vont avancer parce que c'est Dieu qui fait avancer l'Église. Amen. Jésus a dit, je bâtirai l'Église. Il n'a jamais dit, bâtissez l'Église. Il dit, je la bâtirai. Il faut apprendre à travailler avec lui. Amen. 11h-5, on fait une petite pause. Alors, nous continuons là où nous étions. Le souci du serviteur de Dieu. Nous avons parlé du témoignage de Dieu.
Exode 33, le verset 1. Deuxièmement, en fait, ce sont trois facteurs, trois points qui vont vraiment attirer. C'est trois attitudes de cœur du serviteur de Dieu qui vont attirer la gloire de Dieu. Si vous vous souciez du témoignage de Dieu, ça va toucher le cœur de Dieu et Dieu va amener la gloire sur votre vie. Le deuxième facteur qui est très important, c'est ce que moi je dirais ceci. Bon, premièrement, pour le témoignage de Dieu. Deuxièmement, bien simplement, par amour pour Dieu, par sentiment envers Dieu. Exode 33, le verset 1, nous dit ceci. Le Seigneur adressa la parole à Moïse et dit, « Quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Monte vers la terre promise par semant Abraham, que j'ai donné à Jacob. » Verset 2. « J'enverrai devant toi un ange, je chasserai le Cananéen et tous les autres peuples. » Verset 3. « Monte vers le pays ruisselant de lait et de miel. » Voyez-vous? « Je l'exterminerai l'ennemi en chemin. » Mais Dieu dit, « Je n'irai pas avec toi. Vas-y, mais moi je n'irai pas avec toi. » Dis aux fils d'Israël, vous êtes un peuple à la nuque raide. Qu'un seul instant je monte au milieu de vous, je vous exterminerai. Maintenant, déposez vos habits, je verrai ce que je vais faire. Ici, il y a quelque chose de bien intéressant qui a attiré mon attention tout dernièrement. Dieu a laissé Moïse dans une angoisse, dans une inquiétude, dans un souci. Et je crois que c'est un souci qui était envoyé de Dieu. L'être humain, aujourd'hui, on vit dans une société qui ne veut pas souffrir. Hein? Mais la souffrance, parfois, c'est bien, c'est envoyé de Dieu. On vit dans une société qui ne peut plus tolérer la moindre souffrance. Et je ne veux pas rentrer dans tout le débat sur les cachets, est-ce que des gens devraient prendre des antidépresseurs, des choses comme ça. Je ne veux pas rentrer dans tout ce débat-là. Je crois que c'est du cas par cas. Je crois que c'est prouvé scientifiquement que certaines personnes ont vraiment un dérèglement hormonal, qu'elles ont besoin d'être équilibrées sur le plan hormonal. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, je ne suis pas médecin. Et je ne suis pas venu faire un débat s'il y a des gens qui m'écoutent, que vous avez besoin des cachets et tout pour avoir un certain équilibre hormonal. Je ne veux pas vous encourager à arrêter de prendre ces choses-là. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, c'est entre vous et Dieu. J'ai vu des gens qui, par décision irréfléchie, tout à coup, ont arrêté de consommer une certaine médecine et ils tombent dans une psychose, deviennent violents et tout déréglé. Je ne veux pas rentrer là-dedans ce matin. Mais je crois qu'il y a des gens qui, dans la société aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas accepter une souffrance dans leur vie, dans leur âme, un état d'âme, de tristesse, vont chercher un cachet pour anesthésier la douleur de l'âme. Mais ça, ce n'est pas tout le monde, mais c'est un contexte bien précis. Pourtant, la souffrance, parfois, c'est bénin, c'est envoyé de Dieu. Et Dieu, ici, va envoyer une certaine souffrance chez son serviteur, mais qui est bien particulière. Regardez, Dieu accorde le succès, comme on a vu tout à l'heure, Dieu accorde l'avancement, le succès, la réussite à Moïse, mais il dit « Je n'irai pas avec vous ». C'est un test pour Moïse. Moïse n'acceptera pas de réussir sans la présence de Dieu. Et c'est à cause de cela que Dieu a béni Moïse, frères et sœurs. Je crois bien, bien, c'est très, très simple ce que je dis. Ça ne peut pas être même plus simple. Je crois que le deuxième élément qui va attirer la faveur, la gloire de Dieu sur une vie, c'est l'amour pour la personne de Dieu. Simplement avoir des sentiments pour Dieu. Voyez-vous, Moïse, une fois que Dieu lui a dit « Je n'irai pas avec vous », il y a un délai qui se passe. La Bible ne dit pas combien de jours, combien d'heures, combien de temps ou de semaines. On ne sait rien. Mais il y a un délai dans le texte. En fait, la Bible dit que Dieu dit « Je n'irai pas ». Et puis après, on voit que ça dit « Et Moïse rencontrait Dieu face à face. » À la tente. Hein? Moïse a sorti de sa tente du camp, il l'a amené dans le désert. Tous ceux qui voulaient consulter l'Éternel allaient au désert. La nuit de Dieu venait. Ce n'était pas encore le tabernacle parce qu'il n'avait pas été construit. C'était la tente de Moïse. Moïse prit sa tente et il en a fait une tente de rencontre pour Dieu. En passant, c'est une très belle image de consécration. Et tous ceux qui voulaient consulter l'Éternel sortaient du camp, racontaient leurs problèmes à Moïse. Moïse entrait dans la tente, la gloire de Dieu descendait, Moïse consultait l'Éternel, demandait à Dieu quoi faire avec cette situation, Dieu donnait une réponse et Moïse sortait. Maintenant, mettez-vous à la place de Moïse un instant ce matin. Imaginez ce serviteur qui, je ne sais pas combien de rencontres il a fait comme ça, pendant combien de jours, voit Dieu face à face, rencontre Dieu pour le peuple. Hein? Mais il sait que le moment va venir où on va se séparer. C'était sa réalité. Dieu donne la direction, Dieu donne la sagesse. Et Moïse aussi expérimentait la beauté, le réconfort, la chaleur d'être dans la présence de Dieu. On ne peut pas être dans la présence de Dieu sans recevoir quelque chose. J'ai bien aimé ce que des théologiens athées, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de théologiens athées maintenant, dans beaucoup de cercles, les plus grands théologiens de ce monde sont souvent des gens qui ne croient même plus à l'existence de Dieu. En fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils étudient les Écritures. Ça m'a touché que des gens comme ça disent, en étudiant les textes, qu'ils ont remarqué à chaque fois dans la Bible que la gloire de Dieu est manifestée à quelqu'un, elle lui est aussi communiquée. Comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas être en présence de Dieu sans recevoir la présence de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Si la présence de Dieu se manifeste à vous, elle vous sera communiquée. Si vous rencontrez Dieu, vous recevrez quelque chose de Dieu. Moïse recevait quelque chose de Dieu. Il recevait un bien-être. Il recevait une joie, il recevait un réconfort, il recevait une force, il recevait une grâce, il recevait une paix dans la présence de Dieu. Et là, il sait qu'il va se séparer de ce Dieu. Et moi, ce qui touche mon cœur vraiment, c'est que Moïse dit, moi, je ne peux pas vivre sans ça. Je ne pourrai pas vivre sans cette gloire, sans cette présence sur ma vie, le réconfort qu'elle m'apporte. Et son amour pour Dieu a fait que la gloire de Dieu est revenue. Voyez-vous, Dieu a placé un mur devant Moïse. Il a mis un mur. Et le mur, c'était « Je n'irai pas avec vous ». Et Dieu, parfois, il va placer des murs dans votre vie. Quelque chose va arriver. Et ça ne marche plus. Tout à coup, on se prend un mur, on se dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive? » Et maintenant, l'homme, il a deux choix. Ou bien il va refuser le mur qui est devant lui. Il va dire « Je ne peux pas accepter ce mur dans mon église, dans mon ministère, dans mon service pour Dieu. » Hein, si vous travaillez avec les jeunes ou les enfants et que vous avez faim de voir des enfants venir à Christ. Moi, j'ai été rempli du Saint-Esprit dans mon enfance. Moi, j'étais dans une classe d'enfants à l'école du dimanche, un dimanche matin, parce qu'une petite dame à l'église avait tellement soif de voir les enfants remplis du Saint-Esprit. Elle a prié, elle a jeûné. Pendant des mois, elle a prié pour nous. On était toute une petite classe. Et les 20 enfants ont été remplis du Saint-Esprit. Moi, je me souviens de ce jour-là, encore aujourd'hui. Les enfants priaient, remplis du Saint-Esprit. C'était extraordinaire ce qu'on avait expérimenté. Mais cette dame, elle avait un mur devant elle. C'était que les enfants, ils n'étaient pas touchés. Elle dit, moi, je n'accepterai pas de juste faire les classes comme ça. Je veux voir les enfants vivre quelque chose. Et elle a prié, et Dieu a enlevé le mur. Mais voyez-vous, parfois, la nature humaine, elle n'est pas très combative. Hein? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a, quand on sort de Paris, à l'ouest, quand je retourne à la maison, il y a une façade d'un bâtiment qui a été peint, tout un grand mur. Et c'est très, très joli. Ils ont peint le bâtiment, ils ont peinturé en fait la façade, ils ont fait une fausse fenêtre avec une dame qui est peinte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Hein? Parfois, il y a des fresques comme ça sur des murs. Parfois, c'est des jolis graffitis que les jeunes font. La ville va leur permettre de faire quelque chose de bien et tout ça. Et là, c'est assez marquant parce que on peut se laisser avoir. On croit que c'est une façade, on croit qu'il y a une vraie porte avec des vrais pots de fleurs, et on passe en voiture, on croit vraiment que la dame nous regarde. On dit, mais regarde, la dame, elle est à la fenêtre. Mais en fait, il n'y a rien. C'est faux. On a peint le mur. C'est de l'art, c'est très beau. Mais voyez-vous, il y a des gens qui font ça avec leur vie. Dieu met un mur dans leur vie pour les confronter à un changement. Et ils vont accepter le mur. Alors, ils vont le peindre. Ils vont le déguiser. Et ça, c'est un choix. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je ne veux pas accepter les murs. Présentement, il y a des murs dans ma vie. J'ai faim, j'ai soif de voir Dieu faire des changements. Et je ne veux pas peindre le mur. Je ne veux pas ignorer le mur. Je ne veux pas décorer le mur. Je veux que le mur tombe. Avec Dieu, les murs, c'est fait pour tomber. Et là, Moïse, lui, il a un mur. Dieu a placé un mur devant lui. C'est le fait que Dieu n'ira pas avec lui. Et Moïse, il vit constamment avec cette réalité, ce mur. Dieu ne viendra pas avec nous. Et regardez ce que Moïse va faire. En fait, la pression va monter dans son âme. Hein, vous dites ça, la cocotte minute? En France, ils disent la cocotte minute. Vous dites ça en Suisse? Hein? On met un truc sur le feu, là, et puis la pression, elle monte. Hein? Et Moïse, la pression, elle monte. Et à un moment donné, on ne sait pas quand, mais Moïse, régulièrement, il rencontre la présence de Dieu, il rencontre la gloire de Dieu, comme ça, il voit la gloire de Dieu, mais il sait, il y a ce silence de Dieu, il n'y a pas de réponse de Dieu, et Moïse vit là-dedans, et à un moment donné, Moïse, il va faire sauter la cocotte minute. Il va dire à Dieu, « J'en peux plus, viens avec nous. » Là, vous connaissez le texte, hein? « Si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Et qui est-ce qui va venir avec nous? On veut ta présence, Seigneur. » Et puis là, Dieu va se laisser fléchir. Parce que la Bible dit que Dieu, hein, Jacques dit, « Dieu est easy to be entreated. » Dieu est facile à se laisser fléchir. Dieu est compatissant. Quand il voit un cœur brisé, il se laisse fléchir. Et Dieu dit, « OK, je reviendrai. » Maintenant, pour nous, c'est qu'un verset. Mais pour le peuple de Dieu à l'époque, c'était extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Parce que là, il y avait toutes les tentes en Israël, tout le campement était monté. La tente de Moïse est à l'extérieur. Et vous savez ce qu'ils ont vécu? Moïse est retourné 40 jours une autre fois devant la face de Dieu. Il est revenu encore une fois avec les tables de la loi et regardez l'image. Un jour, Moïse est arrivé. Il a dit, « Toi, enlève ta tente. » Pourquoi? Parce que Dieu revient. Ah, Dieu va revenir. Et Dieu m'a même montré comment le campement doit se placer. Telle tribu-là, telles armées-là, les Lévites-là, vous-là, vous-là. Et en plein milieu du campement, Dieu va venir. Pour eux, c'est incroyable. Dieu qui nous a rejetés, Dieu qui voulait nous tuer, Dieu qui voulait nous détruire. Après, Dieu qui veut nous bénir, mais qui ne veut pas venir avec nous. Maintenant, il revient avec nous. Tout ça parce qu'il y avait un homme qui, je crois, avait des sentiments pour Dieu. S'inquiétait de Dieu. S'inquiétait du témoignage, de la gloire de Dieu. Il me reste combien de temps, frère? Combien de temps? Encore? 10 minutes? OK. Un amour pour la présence de Dieu. Dernièrement, par amour pour le peuple, je vous encourage à lire à la maison, Nombre 10, 35, nous montre clairement, on ne le lira pas ensemble parce que je vais aller rapidement vers la fin, nous montre clairement que Dieu, que Moïse voulait la gloire de Dieu par amour pour le peuple. En 2008, je dis ceci avec un poids sur mon cœur. Et maintenant, je ne vous connais pas, alors je peux dire ces choses-là bien, bien, bien librement. Et je le dis, mais tout ce que je vais dire dans les prochains instants, sachez que c'est vraiment par amour. Malheureusement, il existe des substituts à la gloire de Dieu. Nous, moi, j'ai cru, et ça a coûté cher, mais j'ai cru que rien ne pouvait remplacer la gloire de Dieu dans la vie des jeunes. On avait tout pour attirer les jeunes à l'Église. Mais on s'est dit, on ne fera pas un show, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela, il faut la présence de Dieu. Frères et sœurs, rien ne peut remplacer la glorieuse présence de Dieu dans l'Église. Aucun style, aucune mode, aucune tendance, aucune vague. Et on a vu tellement de vagues passer dans les Églises. Mais ce qui demeure et ce qui reste et ce qui transforme les cœurs, c'est la venue de la gloire de Dieu. C'est que ça. La nuit, la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on peut avoir la présence de Dieu en terminant? Trois choses. Premièrement, une consécration totale. Une consécration totale. Rapidement, je vous dis en une minute un verset que je pourrais en parler pendant des heures tellement que c'est merveilleux. Moïse construit le tabernacle, la tente d'assignation. La gloire de Dieu vient. Moïse ne peut même pas entrer dans la tente, tellement la gloire de Dieu vient. Pourquoi Moïse ne peut pas entrer? C'est écrit dans la Bible. Exode 40, vous pourrez le lire à la maison. Pourquoi Moïse ne peut pas entrer? Car l'Éternel prenait toute la place. Il n'y avait plus de place. C'est très simple, c'est marqué pourquoi. Salomon consacre le temple à Dieu. Les prêtres sortent en courant. Ils ne peuvent même pas rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce que Dieu prend toute la place. Dieu désire vraiment avoir toute la place dans nos cœurs. Rien d'humain. Rien de jamais moi dans ma vie. si ma consécration est totale, si je suis vraiment mort avec Jésus à la croix et que je vis maintenant vraiment pour le royaume de Dieu, la gloire de Dieu va venir dans ma vie. C'est certain. Elle ne vient pas par nos mérites, elle ne vient pas par nos œuvres, elle vient lorsqu'on meurt vraiment à nous-mêmes et qu'on veut vivre pour Dieu. Elle vient. C'est la grâce de Dieu. Ils ont construit le temple et Dieu est venu. Il y a deux moments où la gloire de Dieu n'est pas venue. Quand Néhémie et Esdras ont rebâti le temple, hein, la gloire de Dieu n'est pas venue. Maintenant, je ne dis pas que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ils ont construit le temple, Dieu est venu, il y a eu des repentances, il y a eu vraiment une visite du Saint-Esprit, le peuple s'est repenti pendant qu'Esdras lisait la loi. C'est merveilleux. Mais il y avait un problème dans le temple. Et on n'a pas le temps ce matin, mais si vous étudiez bien comme il faut Esdras et Néhémie, il y avait du compromis dans le temple. Le grand sacrificateur, Éliashib, avait marié sa petite fille avec le petit-fils de Sambala, qui était le chef des armées des Samaritains. Et dans cette histoire, croyez-le ou non, vous êtes d'accord ou pas, moi je le crois, Sambala, c'est une image de Satan. Sambala avait un serviteur qui s'appelait Tobija. Cet homme est une image du péché. Et parce que le grand sacrificateur a une alliance très indirecte, sous terre, à quelque part, c'est très, très indirect, c'est très sournois. Et pendant 12 ans, on reconstruit les murs avec Néhémie. Néhémie repart à Babylone parce qu'il doit repartir. Et quand il revient, Tobija est dans le temple. Le péché est dans le temple. Il a tout viré. La Bible dit qu'il n'y a plus d'ustensiles. La Bible dit qu'il n'y a plus la paye des Lévites. Les Lévites sont repartis à la campagne. Il n'y a plus de sacrifices qui montent vers Dieu. Il n'y a plus d'encens qui montent vers Dieu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus rien dans le temple pour Dieu. La Bible dit qu'il n'y a plus de blé dans le temple, il n'y a plus la dîme dans le temple. La Bible dit qu'il n'y a plus l'oncle, il n'y a plus l'huile dans le temple, il n'y a plus de vin, il n'y a plus rien. Tout a été enlevé parce que le péché est rentré. Le péché est rentré parce que le grand sacrificateur avait fait une toute petite alliance. Et moi, je crois, c'est une conviction, je ne l'impose pas, mais moi, je crois que lors de la construction de ce temple, on ne voit pas dans la Bible littéralement vraiment la gloire de Dieu qui est venue comme au moment avec Salomon, parce qu'il y avait un compromis. S'il y a un petit compromis dans ma vie avec le monde, la gloire de Dieu ne peut pas venir. Il faut une consécration totale. L'autre moment, à un autre moment où le temple a été construit, la gloire de Dieu n'est pas venue, c'est lorsque Hérode a construit le temple. Marquez mes paroles. Hérode, vous le savez, c'est historique, a construit le temple par intérêt politique. Il voulait plaire aux Juifs, il voulait plaire aux hommes, il voulait gagner les Juifs à sa cause politique, il voulait calmer le peuple, il a fait le temple en Israël. Et la gloire de Dieu n'est jamais venue dans ce temple. Il n'y a aucune mention dans la Bible que quand Hérode a construit le temple, la gloire est venue. Jamais, jamais. Dieu ne mélangera jamais ses intérêts avec nos intérêts. Frères et sœurs, la Bible dit que l'onction ne doit pas être mélangée avec le profane. Chacun d'entre nous, nous devons nous poser des questions. Ce que je fais pour Dieu, mes intérêts, mes intentions, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de Dieu? Y a-t-il du « je me moi » qui se mélange avec les choses de Dieu? Tout devait être consacré à Dieu dans le temple. Le mot consécration veut dire appartenir en propre à l'Éternel. Deuxièmement, ce qui fait venir la gloire de Dieu, c'est l'intercession. Vous verrez, on pourrait prêcher pendant des heures juste là-dessus, les chrétiens aujourd'hui prient. Je rencontre dans toutes les églises des chrétiens qui prient, mais des chrétiens qui intercèdent ou qui savent qu'est-ce que l'intercession. J'en connais pas beaucoup. L'Église avancerait plus si on avait plus d'intercesseurs. S'asseoir et donner sa journée à Dieu en 5 minutes, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. Il faut une intercession. Regardez Moïse. Moïse était un intercesseur. Vous savez c'est quoi un intercesseur? C'est quelqu'un qui va se cacher avec Dieu et qui passe de longs moments à partager le fardeau avec Dieu, qui va accepter de pleurer devant Dieu, qui va prier, qui va persévérer dans la prière. Vous lirez tous les pères, tous les hommes qui ont marqué le christianisme, qui ont laissé un héritage profond et durable, ont tous enseigné. Et de leur temps, ils ont tous motivé les chrétiens à persévérer dans la prière. Nous, on a connu des victoires qu'on n'aurait jamais connues si on n'avait pas intercédé. Moïse a intercédé. Ce n'était pas des petits coups d'intercession, c'était une vie d'intercession. Et en terminant, Moïse avait une confiance en Dieu. Quand on prie, quand on cherche la face de Dieu, Dieu nous répond. Dieu nous donne un « oui, je vais venir ». Et là, il faut croire en Dieu. Frères et sœurs, je suis profondément convaincu que ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Maintenant, une église loue d'une certaine façon, l'autre église chante d'autres chants. Quand la doctrine est fondamentalement pure et bonne, après, voyez-vous, les Chinois chantent d'une façon à Dieu, les Canadiens d'une autre, les Suisses d'une autre façon, et l'Amérique du Sud loue le Seigneur d'une autre façon. Il y a des différences culturelles, mais il doit y avoir un fond. La vraie Église de Dieu, peu importe la langue ou la culture ou le continent, elle se retrouve. Parce qu'il y a cette pureté, il y a ce désir, il y a ces motifs devant Dieu qui sont très, très, très importants. Mais la gloire de Dieu va faire toute la différence. Je l'ai vu en France et je l'ai vu au Québec. Je me suis longtemps demandé, Seigneur, moi, je veux ta gloire. Je veux que ta gloire, je veux que ta gloire vienne dans les réunions. Et je me souviens, un jour, j'étais en France ici, il y a un an, et je priais comme ça. Je termine en vous disant ceci. Je priais et je vous parle avec mon cœur. Ça faisait des heures que je marchais dans les bois. Je restais à la campagne, j'avais accès à aller dans les bois et je pouvais vraiment intercéder. Ça faisait des heures que je m'inquiétais. Je priais, je pleurais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de plus pour que ta gloire vienne? Je veux que ta gloire vienne dans les réunions. Je prie que ta gloire vienne. Je jeûne que ta gloire vienne. Je veux que ma vie soit pure. Tout ce que je veux, c'est que ta gloire vienne et que les vies changent. Et vous savez, il y a quelque chose qui est venu sur mon cœur. Le Seigneur m'a dit, ben maintenant, crois. Crois. Si tu as fait ce que tu as à faire et que tu désires et que ton cœur est pur, crois que je vais te faire la grâce. Attends-toi. Crois que je vais venir. Je dis, Seigneur, c'est tout. C'est tout. Je vais venir. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu viennes? Bien, il faut que tu demandes. Et la Bible dit, dans Ésaïe, rappelez constamment à l'Éternel qu'il doit accomplir ses promesses. C'est marqué, je crois que c'est Ésaïe 61, 62, c'est marqué qu'il y ait des gardiens aux portes de la ville qui élèvent leur voix vers Dieu, c'est marqué, qui rappellent constamment à Dieu qu'il doit venir. L'importance de l'intercession, persévérer dans l'intercession. Le Seigneur m'a dit, tu m'as demandé, je veux venir. Reste dans la prière avant la réunion, jusque dans la réunion. Je débarque dans la réunion, je fais un appel au salut, et il y a des jeunes qui viennent à Dieu, en larmes et tout, un vrai esprit de repentance, quelque chose de bien. Et je remarque qu'il y a une jeune femme qui est là, elle est vraiment très, très, très mal habillée. Je peux vous dire ceci, je lui ai demandé de raconter ceci. Très mal habillée, et puis j'ai vraiment l'impression qu'elle a une mauvaise vie. Et je la vois, elle pleure, elle est brisée devant, elle prie Dieu. Je retourne à l'église un an plus tard, et je la revois. Même son apparence physique a changé, même son visage, c'est une jeune fille très, très sombre. Tout a changé, et puis elle vient vers moi, elle dit, il faut que je te raconte. Elle dit, l'an dernier, quand tu es venue, elle dit, moi, je n'étais jamais venue à l'église, contexte non chrétien. Elle dit, je suis rentrée dans le hall de l'église. Puis elle dit, il y a quelque chose qui est venu sur moi. J'ai senti la présence de Dieu tomber sur moi. Et j'ai su qu'il y a un Dieu. Et je me suis mis à pleurer. La réunion n'avait même pas commencé. J'ai prêché bien simplement et Dieu a pris son cœur. Voyez-vous, c'est la gloire de Dieu qui fait toute la différence. J'ai une jeune femme, une jeune fille qui était dans mon groupe de jeunes au Canada. Elle est partie un été, elle est allée faire voyager, puis elle est allée là. Puis elle est allée, elle m'a dit, « Pasteur, je suis allée dans une belle grande église qui bouge, qui est moderne et tout. » Puis elle dit, « J'étais vide, il n'y avait rien. » Puis elle m'a dit, « Après tout mon périple de l'été, je suis revenue. » Puis elle m'a dit, je suis arrivé dans le hall de l'église, un vendredi soir avant le groupe de jeunes. Elle dit, j'entendais la musique, j'entendais les musiciens qui se préparaient. Puis elle dit, il y a comme une présence qui est venue sur moi. Je me suis mis à pleurer dans le hall de l'église. Je savais que Dieu était là. Puis elle est revenue à Dieu. Les gens le savent. Ce qui fait la différence, c'est la gloire de Dieu. Notez ceci, ce qui fait une différence dans l'église, c'est la présence de Dieu. La Bible dit, la nuée couvrait toute la maison de Dieu. Il me reste combien de temps? 5 minutes encore? Ah ouais, c'est bon. OK, ben tant mieux. Regardez ceci avec moi. Nombre. Tournez avec moi dans Nombre 9. Le jour où l'on dressa la demeure, en fait, le tabernacle, la maison de Dieu, la nuée couvrit la maison. C'est un verset simple, hein? Le mot « couvrir » ici signifie ceci. « Enveloppa la maison. » « Dissimula la maison. » Nombre 9:15. Le jour où l'on dressa la demeure, la nuée couvrit la maison, ça veut dire envelopper. La nuée de Dieu a littéralement enveloppé la maison. La nuée de Dieu a dissimulé la maison. On ne voyait plus la maison de Dieu. On ne voyait que la nuée. Vous l'avez, ce verset? Il y a des gens qui cherchent un peu. Ça va? Hein? Nombre 9:15, ça va, ouais? La nuée couvrit la maison. Ça veut dire, on aurait pu traduire, la nuée cachait la maison. La nuée comblait la maison. Le mot hébreu ici signifie inonder la maison, voiler la maison, abriter la maison, défendre la maison de Dieu, saisir la maison de Dieu. Ce mot, dans d'autres contextes, est traduit par un vêtement et un abri. Est-ce qu'on a besoin de la gloire de Dieu? Moi, je crois qu'on en a vraiment besoin. Je crois que c'est l'enjeu de toutes nos vies. Et la Bible termine avec une promesse extraordinaire. Quand Moïse a intercédé pour le peuple et que Dieu a fait grâce au peuple, eh bien, la Bible dit que la nuée du Seigneur les couvrait tous. N'est-ce pas merveilleux? Ces gens qui ne le méritaient pas, parce qu'un homme a prié pour eux, la nuée de Dieu les couvrait. Ils ne le méritaient pas. C'était des rebelles. Mais Moïse a intercédé pour eux. Moïse s'est tenu pour eux devant Dieu. Moïse soupirait. Moïse n'avait qu'un seul souci. Il faut que la gloire de Dieu vienne. Et parce que Moïse se souciait de la gloire de Dieu, eh bien, la gloire de Dieu est venue. Et elle couvrait les familles. Frères et sœurs, la gloire de Dieu est encore là aujourd'hui. Elle est encore possible. Et si on cherche la gloire de Dieu, elle va venir. Elle va nous couvrir, elle va venir, elle va bénir les familles, elle va même bénir nos propres vies. La fin de la vie de Moïse se termine comme ceci. En parlant de Moïse, il est dit que sa vue n'a jamais baissé. Hein? Quand Moïse est décédé, c'était un homme plein de vigueur. Mort à 120 ans, vif, vigilant, éveillé. Sa vue n'avait pas baissé. Donnez-moi un homme ou une femme qui se soucie de la présence de la gloire de Dieu, il va être béni. Sa vie va être bénie. Il va traverser des épreuves, c'est certain. Mais ultimement, sa vie va être bénie. Dieu veut prendre vos fardeaux, vos soucis personnels. Mais il veut que vous preniez le sien. Et le seul souci qu'on a apporté, c'est Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ta gloire vienne? Amen. On peut terminer avec un moment de prière ce matin? J'ai invité le pasteur Zinzan à s'approcher. J'ai bien aimé, on a chanté ce chant ce matin qui disait « À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. » À jamais tu seras. Oui, on peut le faire. Hallelujah. J'aimerais vous inviter à vous lever avec moi ce matin. On va se lever ensemble. Hallelujah. On va prendre un instant ce matin pour placer nos cœurs devant Dieu et dire, Seigneur, on veut voir ta gloire, Seigneur. Hallelujah.